Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Un papa qui se dédie pleinement à la vie de ses enfants, quitte à changer de cap professionnel, tout orienté autour de leur bien-être, sans s'oublier également en tant que personne, c'est la leçon de vie d'aujourd'hui. On y va pour les détails.
Médien, Yasmine, version homme.
Omar Benkiren, bonjour.
Bonjour Yasmine, bonjour aux auditeurs et auditrices.
Merci beaucoup d'être avec moi dans la version homme de femme d'aujourd'hui. Alors, Omar Benkiren, justement, c'est incroyable parce qu'il y a quelques jours, je discutais avec un papa aussi. Un papa, en fait, qui a fait le choix pour des circonstances assez particulières. Il a divorcé de la maman de ses enfants. Il a gardé ses enfants. C'est lui qui en a pris la garde. Et donc, il a fallu qu'il s'adapte, qu'il mette un petit peu de côté, pas complètement sa carrière, mais parce que voilà, il doit subvenir aux besoins de ses enfants et tout, mais de réadapter ses priorités pour pouvoir s'occuper eh bien pleinement de ses enfants puisque leur mère n'était pas là. Omar Benkiren, vous aussi, vous avez mis la vie de papa avant la carrière. C'est vrai ou pas?
C'est vrai en fait. J'ai deux enfants, un garçon et une fille. Aujourd'hui, de 13 et 10 ans, et ça fait 8 ans que je suis divorcé. Ils sont avec moi depuis 8 ans, en fait, full-time. Et depuis, on a bougé pas mal de temps. Alors certes, ce que vous venez juste de dire, Yasmine, est très intéressant dans le fait qu'après mon divorce, la première des choses que je devais gérer, c'était ma logistique. Mmh. Tout était un petit peu chamboulé, donc il fallait bien gérer la logistique. Et j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur. Ses filles étaient dans la classe de mon fils. On était encore à Dubaï à l'époque. Et il m'appelle, il me dit « J'ai appris que tu t'occupes des enfants et tout ça. On prend un café. » On ne se connaissait pas. Et il m'a donné un seul conseil. C'était de gérer la logistique et de recruter une vraie nanny. Mmh. Et une nanny, je ne parle pas... c'est-à-dire une amie professionnelle éduquée qui va aider à élever les enfants, à leur apprendre des choses.
Faire les devoirs, etc.
Absolument. Ouais. Mais certes, à l'époque, ils étaient beaucoup plus jeunes, ils étaient à peine en l'équivalent de CP, ils étaient en kindergarten.
Oui.
Et cette nanny, elle est toujours avec nous jusqu'à aujourd'hui. De Dubaï, on est parti s'installer à Bali. En fait, j'étais en banque d'affaires et ma dernière, c'était une banque d'affaires française. Oui. Et j'ai décidé de tout quitter, devenir entrepreneur pour pouvoir équilibrer entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle.
Alors, justement.
Certes, beaucoup.
Ouais. Allez-y.
Ouais. Ouais, beaucoup vont dire être entrepreneur, c'est beaucoup plus que les gens qui font du 9-5 au bureau.
Ouais.
Certes, mais en même temps, il y a une semaine où je vais travailler peut-être 10-12 heures par jour et d'autres semaines où je pourrais travailler que 2 heures.
Exact. C'est ce que ce monsieur me racontait aussi, Rachid, il m'expliquait ça, il me disait qu'il avait dû s'adapter. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu une première séparation avec sa femme et sa femme avait pris les enfants pendant 6 mois. Il m'a dit, j'ai vécu les pires 6 mois de ma vie. J'étais trop, très attachée à mes enfants et il est encore. Et quand elle a décidé de vraiment arrêter le mariage, il lui a dit, ok, pas de problème, mais je prends pleinement la garde des enfants. Dans votre cas, Omar, qu'est-ce qui vous a fait garder les enfants, en fait?
Ben, en fait, c'était un accord mutuel, déjà. Et comme je travaillais beaucoup et le temps que j'avais, les week-ends ou les vacances, je passais beaucoup de temps avec les enfants pour compenser le manque au moment où j'allais travailler. J'étais constamment dans les avions. En fait, j'ai réalisé que, et même mon ex-femme a réalisé la même chose, que j'étais un bon papa. Mmh. Et les enfants m'ont appris la patience, ils m'ont appris beaucoup de choses aussi. Et c'était quelque chose de très important chez moi de m'en occuper, surtout au niveau études et tout. J'avais déjà leur plan dans ma tête planifié. certes, c'était dans ma tête. Aujourd'hui, c'est plus le même parce que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus actifs que d'autres générations. Et donc, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Que ce soit de la tech, d'être youtubeur ou plein d'autres nouveaux métiers. Mais pour moi, c'était... j'ai eu peur au départ. Je ne m'en tirais pas. Je ne savais pas si je pouvais gérer. Mais... comme on dit pour les femmes, au moment où ils créent un bébé, elles deviennent des superwomen. C'est-à-dire, c'est leur premier bébé et là, elles ont un pouvoir extraordinaire. Mais j'ai réalisé que même pour les hommes, c'était la même chose. Au moment où j'étais face à face à ça, certes, j'avais peur, je ne comprenais rien du tout. J'appelais ma mère pour des questions basiques. Je googlais beaucoup de trucs. J'ai commencé à lire des livres comme Gina Ford, comment éduquer les enfants, comment les élever. Mais par la suite, c'est devenu très facile. Au bout de 6 mois, par exemple, ouais, je crois 6 mois, je pouvais même changer une couche pour ma fille en 15 secondes, même debout avec une main.
Parce qu'ils étaient encore très petits. Elle était très petite.
Oui, elle était 1 an et demi. Elle avait 1 an et demi et Lélé avait 4 ans et demi.
Donc, oui. C'est quand même des âges où les enfants sont très petits, où en général, ils sont très attachés à leur maman. Où c'est un peu, je pense, plus compliqué que quand c'est des enfants de 10-12 ans, des jeunes ados, etc. Mais est-ce que forcément ça crée des liens que vous n'auriez jamais eu avec eux si vous étiez encore à 4?
En fait, oui, ça crée beaucoup plus de liens. On est devenus presque inséparables. Je suis devenu comme un papa canard. Je marchais, ils étaient là, tous les deux constamment, derrière moi et tout ça. Tout ce que je faisais, ils étaient là. On voyageait constamment ensemble, on faisait tout ensemble. En fait. Même des fois, si on sortait le soir, je leur mettais des trucs comme les gros écouteurs là, pour noise cancellation. Et je faisais la fête parce que je n'avais pas comment les faire garder ou un truc comme ça. Et ils étaient constamment partout avec moi.
Okay.
Et certes, ça a créé beaucoup de liens et on a beaucoup voyagé ensemble justement pour rendre ces liens beaucoup plus forts.
Alors, en même temps, ce que vous décrivez, c'est la réalité de beaucoup de femmes. J'en parlais aussi avec une collègue récemment après cette interview avec Rachid. Elle m'a dit, il décrit ce que beaucoup de femmes vivent une fois divorcées, une fois que le papa ne joue plus son rôle de père, que la mère se retrouve à jouer pleinement le rôle des deux, à prendre en charge les enfants, etc. Beaucoup de femmes solo se retrouvent dans cette situation et c'est presque mesquine. Alors que quand on parle de l'homme, et corrigez-moi si je me trompe, on vous voit, vous, Omar, comme le héros.
Je confirme.
Ouais.
Et je confirme... Alors, d'abord, je vais juste pour parler d'un point et ensuite je reviens sur ce fait-là. Je pense, en fait, la différence entre l'homme et la femme lors du divorce, sachant que la femme s'occupe beaucoup plus des enfants en couple, la femme, déjà, la société regarde le divorce en tant qu'échec. Moi, personnellement, je ne pense pas que le divorce est l'échec. L'échec est que les deux parents qui sont ensemble ou pas ensemble, qu'ils ne jouent pas le rôle de parents, c'est ça l'échec. Et ensuite, je sais qu'on est dans une société qui n'accepte pas le divorce et tout ça, mais c'est mon point de vue personnel, c'est sûr. Ensuite, la femme, dès qu'elle s'occupe des enfants, elle pense que c'est un gros poids qui tombe sur elle. Elle ne fait plus sa manucure, elle s'occupe plus d'elle, elle regarde que ses enfants en premier et tout ça. Contrairement à l'homme, l'approche est différente. Il le voit comme un challenge où il doit montrer que l'homme peut s'occuper des enfants tout seul. Chose que beaucoup de sociétés ne considèrent pas. On pense, oui, il n'y a que la femme qui peut le gérer et tout ça. Certes, les enfants ont besoin de l'amour des deux, mais l'homme le voit beaucoup plus challenge, je dois le réussir, je dois le faire. Et c'est-à-dire, moi-même, c'était un peu mon cas. Quand je parlais à mes parents et tout ça, ils étaient choqués. Leur première chose en tête, c'était « Ah, il faut le remarier rapidement ». C'était ça leur priorité. Plus que parce que pour eux, avoir une dans ma vie allait aider à élever les enfants. Et donc moi, j'ai pris ça en tant que challenge, de dire « Oui, je peux le faire ». Et je pense que c'est ça la grosse différence entre l'homme et la femme là-dessus.
C'est ça. Alors, vous avez dit la femme fait plus la manicure, etc. Et l'homme, il continue à la faire, c'est ça?
Ben, l'homme, il continue à faire ses... Il se met en priorité.
Il continue à se mettre en priorité, donc, c'est vrai?
Ouais, c'est très important, en fait.
Ouais.
Et c'est ça ce qui change tout. Moi-même, après mon divorce, j'ai mis un petit peu mes enfants en premier. Mais c'est des gens sensibles. C'est des personnes plutôt sensibles qui comprennent tout. Hein. Quel que soit leur âge, ils comprennent vraiment tout. Ils ressentent, ils ont beaucoup de ressentis, ils ressentent tout ce qui se passe. Et si moi, je ne suis pas heureux, ils ne seront pas heureux. Je peux leur faire tout ce que je veux faire. Et donc, j'ai compris par la suite qu'il fallait que je m'occupe de moi-même. Et le fait d'être heureux, par défaut, pour eux, ils sont heureux.
Absolument.
Je peux leur acheter les meilleurs cadeaux du monde. S'ils ne me voient pas heureux, ils n'étaient pas heureux. Et donc, je me suis toujours mis en priorité, en premier, et eux en second. Ça a l'air très bizarre ce que je dis, mais ça a très bien fonctionné, pour dire la vérité. Je rentrais à la maison, j'étais heureux, je voulais passer plus de temps avec eux, de la joie et tout ça, ils l'acceptaient. Je pouvais leur amener plein de cadeaux, être pas content de ma journée, rentrer et m'enfermer tout seul, ben ils seront tout seuls et tristes. J'ai oublié de répondre à la première qui était « Un homme est considéré comme un héros,
oui.
comme un héros ». Alors ça, en effet, c'était impressionnant. En fait, après mon divorce, je pensais que j'étais le seul père célibataire. Et là, je découvre beaucoup d'autres hommes, que ce soit dans différents pays, qui le sont aussi. Genre, je n'étais pas unique. Et ce qui est très drôle, c'est à chaque fois que je sors quelque part et je dis « je suis père célibataire », que ce soit homme ou femme, ils me donnent tous un câlin et un hug, genre « oui, t'es forte » et machin et tout. Et c'est vrai que la société, enfin tout le monde, regarde l'homme ou le père célibataire en tant que héros.
Alors justement, quand vous recevez ce genre de réaction, est-ce que vous vous voyez comme ce héros? Est-ce que vous vous dites « quand même, je suis exceptionnel » La vérité, Omar.
La vérité, au départ, non, mais à fur et à mesure, oui. C'est-à-dire, j'ai commencé à beaucoup écrire sur Instagram.
Ouais.
Et en effet, je parlais beaucoup des papas héros et tout ça aussi. Et bien sûr, il y a eu quelques femmes qui m'ont écrit, qui m'ont dit les mamans aussi. J'ai dit, c'est vrai. En fait, et là, j'ai compris que... éduquer, élever les enfants par soi-même, ce n'est pas une mission très facile. Déjà, à deux, c'est très compliqué. Donc, seul, c'est très dur. Et quand on est dans des situations où on est très affaibli et tout ça, on n'a pas notre partenaire à qui se plaindre, à qui raconter et tout ça. Donc, on doit toujours apparaître fort auprès des enfants. Et ça, c'est très dur. Et c'est pour ça que je dis, autant que ce soit pour les hommes que les femmes, on est des héros et héroïnes.
Voilà, exact. Ouais.
Pour les femmes, tout le monde pense que c'est normal,
ouais.
La majorité. Et pour les hommes, c'est vrai, ils les voient, ils disent waouh. Mais pour les deux, moi, je dirais que c'est beaucoup de travail.
Ouais, ouais, ouais. Alors justement, une question un peu intime, le fait d'avoir une fille, justement, est-ce que ça vous fait pas peur, cette période de puberté, de menstruation? Avoir cette discussion normalement qui est de transmission féminine?
Si. En fait, depuis mon divorce, c'était mon plus gros souci.
Elle avait un an et demi à ce moment-là.
Ouais, mais j'y réfléchissais déjà.
Ouais, ouais, je comprends.
Comment communiquer, comment raconter. Surtout, par exemple, je prends le cas de notre famille, j'ai une petite sœur, cette éducation a été passée via ma mère. C'est pas mon père qui allait lui en parler, ni rien du tout.
Ouais.
Et donc, j'ai eu la chance, quand je suis au Maroc, que ce soit ma mère ou ma sœur, machin, qui intervienne un peu là-dessus. J'ai fait pas mal de lectures là-dessus aussi. Et quand on est à l'étranger, les amis, les mamans des amis de ma fille, en fait, je leur parle pour qu'elle en parle aussi. Mm. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai accepté de parler comment les bébés viennent.
Ok.
J'ai pas encore osé discuter d'autre chose.
Ok. Refaire sa vie, Omar Ben Kiren, ça veut dire quoi pour vous? Est-ce que, parce qu'on a eu cette discussion dans Femmes d'aujourd'hui, et les femmes m'ont dit, qu'elle n'aimait pas trop cette expression parce que refaire sa vie ne veut
moi
pas.
Non plus.
Ouais, ça veut pas dire grand-chose. Ouais. C'est continuer sa vie. C'est
tout
pas.
À fait.
C'est pas la refaire, l'effacer. Et...
Tout à fait. Et c'est pour ça que j'insiste, certes, que le divorce n'est pas, ne doit pas être conçu comme fail, comme une déception et tout ça. Non. Pourquoi refaire ma vie ? Ma vie, elle est très bien. J'ai deux enfants magnifiques qui sont polis, bien éduqués et tout ça. Donc, je pense que j'ai réussi ma vie. Je n'ai pas à la refaire. Mmh. Je la continue, en effet. Je la continue. Et puis, oui, si demain, après-demain, il y a des rencontres, je me remarie, je ne sais pas, un truc, je ne me pose même pas ces questions.
Ouais.
Mon objectif, c'est qu'ils atteignent leurs 18 ans, qu'ils aillent à faire leur université, de continuer leurs études. Et après, ouais, ce qui se passera, se passera. Que ce soit avant, maintenant, après et tout. Ouais, je ne pense même pas à ça. Mmh.
Et les parents, sa fille, ils ont lâché l'histoire de « il faut qu'on le remarie ». Vous avez fait vos preuves.
Oui, ils ont compris ça. Ouais. Ouais, ça a pris 3 ans
ouais.
après le divorce, mais ils ont compris ça. Mmh.
Le monde, justement, corporate, ce monde de la finance, des grandes rencontres, des grandes banques, des vols, des avions, etc. Est-ce que ça vous manque ou pas?
La vérité, vachement.
Oui.
J'étais bien dans ce monde-là. En plus, j'étais très bon là-dedans.
Oui.
Certes, ce monde corporate est très ingrat, hypocrite, mais en même temps, ça manque de temps en temps. Quand je regarde des films là-dessus,
ouais. Et une belle
ça,
stimulation
ouais,
mentale.
Exactement. Ouais. Mais en même temps, je ne regrette à aucun moment d'avoir fait le switch que j'ai fait aujourd'hui. Au contraire, ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus de choses. Mes enfants ont vécu dans 4 pays déjà, ce qui est très bien. Pour leur âge,
ouais.
On bouge chaque 3-4 ans, on va bouger quelque part. On a passé 3 ans et demi à Bali, magnifique. Mon fils a 10 ans, il faisait de la plongée sous-marine. Ma fille allait surfer, lui aussi. Donc on faisait beaucoup d'activités. Il y a eu un épanouissement extraordinaire. Et là, ça fait à peu près 8 mois qu'on est au Maroc. Bon, c'est leur première fois qu'ils vivent au Maroc. Donc pour moi, c'était important pour qu'ils apprennent Darija déjà, de 1. Et ensuite, de parler une autre langue que l'anglais. À la maison, on parle en anglais. Et donc là, ils apprennent le français, l'arabe, Darija. Donc, ça fait du bien. Et être proche des parents, surtout.
Leurs grands-parents, à eux, oui.
Exactement. Après Covid, c'était très difficile et tout ça. On disait, là, c'est quelque chose arrivé.
Ouais, ouais.
On ne peut même pas voyager et venir les voir. Donc, on en a profité pour passer une petite année ici.
Pour bientôt retourner quelque part?
Oui, oui, il y a quelques options, dont Bali encore.
Ouais.
On a bien aimé la vie à Bali. Les enfants ont beaucoup aimé aussi.
Peut-être pour finir, justement. Comment vous gérez cette absence de la maman? Est-ce qu'il la réclame?
Ben, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que dans le passé. Parce qu'il y a les différents canaux de communication, à savoir Skype, WhatsApp et tout ça. Donc, ils se parlent assez souvent. Certes, il y a toujours une réclamation qui la réclame tout le temps, bien sûr.
Ouais.
Surtout qu'on vit dans 2 pays différents. C'est beaucoup plus difficile que lorsqu'on est dans la même ville. Donc, ou dans le même pays même.
Absolument.
Donc, on essaie de s'organiser selon nos moyens, notre temps, en fait. Elle habite au Canada, nous, on était à Bali, c'était vachement loin. Là, on est au Maroc, c'est beaucoup plus facile, c'est 8 heures de vol. Donc, on essaie d'équilibrer tout ça.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, justement, Omar?
Ben, je dirais une bonne continuation et ne pas refermer.
Et ne pas refermer. Alors justement, l'homme que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous vous attendiez à le découvrir?
Pas du tout. Pas du tout, en fait. Si on avait eu ce même entretien avant que j'aie des enfants, par exemple,
ouais.
Je dirais que j'étais une mauvaise personne, pas dans le sens je faisais du mal, mais comparé à la personne que je suis aujourd'hui. Mes enfants m'ont offert beaucoup, m'ont appris beaucoup de choses aussi, autant que je leur apprends des choses, et franchement, ils m'ont rendu meilleur.
Eh bien, Omar Benkeren, merci infiniment d'avoir été avec moi dans la version homme de femme d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de la transparence, de l'honnêteté, de la discussion humaine, de la vulnérabilité, de la vraie vie.
Merci à toutes et à tous
pour votre confiance. D'aujourd'hui et sa version homme. C'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.